Le journal de George Fox 1666-1673 en Amérique et retour page 4 guidé par le Seigneur, j'invitai l'empereur indien et ses rois à venir à cette réunion. L'empereur vint à la réunion, mais comme ses rois demeuraient plus loin, ils ne purent y parvenir, toutefois ils vinrent ensuite avec leurs caucuses. J'eus le soir deux bonnes occasions de m'entretenir avec eux, ils entendirent volontiers la parole du Seigneur et la reconnurent. Ce que je leur disais, je désirais qu'ils le disent à leur peuple, et qu'ils sachent que Dieu relevait son tabernacle de témoignage dans leur pays sauvage, et qu'il y dressait son étendard et sa glorieuse bannière de justice. Ils se comportèrent très courtoisement et avec beaucoup d'affection, et demandèrent « Où sera la prochaine réunion ? Nous y viendrons. » Ils dirent pourtant « Nous avons eu un grand débat avec notre conseil au sujet de notre venue, avant de venir cette fois. » Le lendemain, nous commençâmes notre voyage par terre vers la Nouvelle-Angleterre, un voyage pénible à travers les bois et la contrée sauvage, par-dessus des marécages et de grands fleuves. Nous prîmes des chevaux à la tête du ruisseau de Trodaven et voyageâmes dans les bois jusqu'à ce que nous arrivions un peu au-dessus de la tête de la rivière Mille. Nous la traversâmes et chevauchâmes jusqu'à la tête de la rivière Wye, puis jusqu'à la tête de la rivière Chesté, où, ayant fait du feu, nous prîmes gîte dans les bois. Le lendemain matin, nous traversâmes les bois jusqu'à la rivière Sassafra, que nous franchîmes en canots ou bateaux indiens, faisant nager nos chevaux à côté de nous. Ensuite, nous chevauchâmes jusqu'à la rivière Bomia, où, de la même manière, faisant nager nos chevaux, nous passâmes nous-mêmes en canots. Nous nous reposâmes un peu dans une plantation en chemin, mais pas longtemps, car nous avions 30 milles à parcourir cet après-midi-là si nous voulions atteindre une ville, ce que nous voulions faire, et nous pressâmes donc. Moi, avec quelques autres, dont les chevaux étaient vigoureux, arrivé en ville cette nuit-là, extrêmement fatigué et trempé jusqu'aux os, mais George Pattison et Robert Withers, ayant des chevaux plus faibles, furent contraints de coucher dans les bois cette nuit-là aussi. La ville où nous allâmes était une ville hollandaise, appelée Newcastle, où Robert Withers et George Pattison nous rejoignirent le lendemain matin. Nous en partîmes et passâmes la rivière Delaware, non sans grand danger pour la vie de quelques-uns d'entre nous. Une fois de l'autre côté, nous eûmes peine à nous procurer des guides, ils étaient difficiles à trouver et très coûteux. Ensuite, nous eûmes à traverser cette contrée sauvage, depuis appelée West Jersey, alors non habitée par les Anglais, de sorte que nous avons voyagé une journée entière sans voir homme ni femme, maison ni habitation. Tantôt nous couchions dans les bois près d'un feu, tantôt dans les wigwams ou maisons des Indiens. Une nuit, nous arrivâmes à une ville indienne et couchâmes chez le roi, qui était un homme fort agréable. Lui et sa femme nous reçurent avec beaucoup d'affection, et ses serviteurs, tels qu'ils étaient, nous témoignèrent beaucoup de respect. Ils nous étendirent des nattes pour nous coucher, mais ils avaient fort peu de vivres, n'ayant pris que peu de choses ce jour-là. Dans une autre ville indienne où nous restâmes, le roi vint à nous, et il parlait un peu anglais. Je lui parlai beaucoup, ainsi qu'à son peuple, et ils nous témoignèrent beaucoup d'amitié. Enfin nous arrivâmes à Middleton, une plantation anglaise dans East Jersey, où il y avait quelques amis. Mais nous ne pouvions y rester pour tenir une réunion alors, étant vivement pressés dans nos esprits d'aller à la réunion semestrielle des amis à Waste Bay, sur Long Island, qui devait avoir lieu bientôt. Nous allâmes avec un ami, Richard Hartshorne, frère de Hugh Hartshorne, tapissier à Londres, qui nous reçut volontiers chez lui. Là nous nous rafraîchîmes, puis il nous transporta, nous et nos chevaux, dans son propre bateau par une vaste étendue d'eau jusqu'à Long Island, ce qui prit la plus grande partie de la journée. Ce soir-là et cette nuit-là, nous restâmes chez des amis à Gravesend. Le lendemain, nous arrivâmes à Flushing. Le jour suivant, nous atteignîmes Waste Bay, plusieurs amis de Gravesend et de Flushing nous accompagnèrent. La réunion semestrielle commença le lendemain et dura 4 jours. Les premiers et deuxièmes jours, nous eûmes des réunions publiques de culte, auxquelles vinrent toutes sortes de personnes. Le troisième jour eurent lieu les réunions des hommes et des femmes, on y prit soin des affaires de l'Église. Là, nous rencontrâmes quelques mauvais esprits, qui s'étaient éloignés de la vérité pour tomber dans les préjugés, la contention et l'opposition à l'ordre de la vérité et aux amis qui y demeuraient encore. Ils avaient été très gênants pour les amis dans leurs réunions là-bas, et pour d'autres dans la région, et il est probable qu'ils seraient gênants maintenant. Mais je ne voulus pas permettre que le service de nos réunions d'hommes et de femmes fût interrompu et entravé par leurs arguments frivoles. Je leur fis savoir que, s'ils avaient quelque chose à objecter contre l'ordre de la vérité dans lequel nous étions, nous tiendrions une réunion un autre jour afin d'examiner leurs objections. Et en effet, je travaillais d'autant plus et voyageais d'autant plus durement pour venir à cette réunion, où l'on s'attendait à voir beaucoup de ces gens crêleurs, car je compris qu'ils avaient beaucoup médit d'eux-mêmes à mon sujet lorsque j'étais loin d'eux. les réunions des hommes et des femmes étant terminées, le quatrième jour nous eûmes une réunion avec tous les mécontents qui souhaitaient venir et tous les amis qui désiraient y assister. La puissance du Seigneur se manifesta glorieusement et les disputeurs furent confondus. Alors certains des principaux instigateurs de la dispute commencèrent à me flatter, cherchant à rejeter la faute sur d'autres, mais l'esprit trompeur fut abattu et condamné, et la glorieuse vérité de Dieu fut exaltée et établie au-dessus de tout, et tous furent abaissés et se soumirent. Cela rendit un grand service à la vérité et une grande satisfaction et consolation aux amis. Gloire au Seigneur à jamais. Après que les amis furent repartis chacun chez soi, nous restâmes quelques jours sur l'île et eûmes des réunions en plusieurs endroits, avec un bon service pour le Seigneur. Lorsque nous fûmes quittes de l'île, nous revînmes à Waste Bay, attendant un vent qui nous porterait à Rhode Island, estimé à environ 200 milles. Dès que le vent le permit, nous levâmes l'ancre et arrivâmes à Rhode Island le 30e du troisième mois, où nous fûmes reçus avec joie par les amis. Nous allâmes chez Nicholas Easton, qui était gouverneur de l'île, nous y passâmes la nuit, fatigués par le voyage. Le premier jour, dimanche suivant, nous eûmes une grande réunion, à laquelle vinrent le lieutenant-gouverneur et plusieurs juges de paix, et ils furent vivement touchés par la vérité. La réunion annuelle des amis de Nouvelle-Angleterre et des autres colonies voisines se tint sur l'île la semaine suivante. Outre beaucoup d'amis qui habitaient ces régions, y vinrent John Stubb de la Barbade, et James Lancaster et John Cartwright par une autre voie. Cette réunion dura 6 jours. Les 4 premiers furent consacrés à des réunions publiques générales de culte, auxquelles assistèrent beaucoup d'autres personnes. Car n'ayant pas de prêtre sur l'île, aucune restriction à une manière particulière de culte, avec l'appui du gouverneur et du lieutenant-gouverneur, et la présence quotidienne de plusieurs juges de paix, cela encouragea tellement les gens qu'ils affluèrent de toutes parts de l'île. Nous eûmes un excellent service parmi eux, et la vérité fut bien reçue. Pendant ces 4 jours, j'ai rarement observé un peuple, dans l'état où il se trouvait, écouter avec plus d'attention, d'application et d'affection, comme il le faisait généralement. D'autres amis remarquèrent aussi cet engagement. Lorsque les réunions publiques furent terminées, la réunion des hommes commença, elle fut grande, précieuse et pleine de gravité. Le jour suivant fut la réunion des femmes, également grande et très solennelle. Ces 2 réunions furent tenues pour régler les affaires de l'Église. Beaucoup de choses de poids leur furent ouvertes et communiquées, comme conseils, informations et instructions pour les services concernés, afin que tout puisse être maintenu pur, doux et de bonne odeur parmi eux. Dans ces réunions, plusieurs réunions d'hommes et de femmes pour d'autres régions furent convenues et établies, pour prendre soin des pauvres et des autres affaires de l'Église, et pour veiller à ce que tous ceux qui professent la vérité marchent selon le glorieux Évangile de Dieu. Quand cette grande réunion générale fut terminée, il fut assez difficile aux amis de se quitter, car la glorieuse puissance du Seigneur, qui était au-dessus de tout, et sa vérité et sa vie bénie coulant parmi eux, les avaient tellement noués et unis ensemble, qu'ils passèrent 2 jours à se dire adieu les uns aux autres et aux amis de l'île. Puis, puissamment remplis de la présence et de la puissance du Seigneur, ils s'en allèrent le cœur joyeux vers leur maison dans les diverses colonies où ils vivaient. Lorsque les amis eurent pris congé les uns des autres, nous qui avions voyagé parmi eux, nous nous dispersâmes chacun dans nos services, selon que le Seigneur nous l'ordonnait. John Burneyat, John Cartwright et George Pattison allèrent dans les parties orientales de la Nouvelle-Angleterre, en compagnie des amis venus de là, pour visiter les réunions particulières qui s'y tenaient. John Stubbs et James Lancaster avaient l'intention de suivre quelque temps après, dans le même service, lorsqu'ils seraient quittes de cette île. Robert Wood et moi restâmes plus longtemps sur cette île, y trouvant encore du service pour le Seigneur. En raison du soutien des autorités à la Réunion et de son ouverture, même après la fin de la Réunion, de nouvelles personnes d'autres colonies continuaient d'arriver chaque jour pendant quelque temps, de sorte que nous eûmes parmi eux beaucoup de réunions grandes et utiles. Pendant ce temps, un mariage fut célébré parmi les amis sur cette île, et nous y assistâmes. Cela se fit chez un ami qui avait autrefois été gouverneur de l'île, et 3 juges de paix, avec beaucoup d'autres ne partageant pas notre profession, y assistèrent aussi. Eux et les amis dirent également qu'ils n'avaient jamais vu une assemblée aussi solennelle en pareille occasion, un mariage d'un tel poids, et un ordre si convenable. Ainsi la vérité fut établie au-dessus de tout. Cela servit probablement d'exemple à d'autres, car il y avait là des personnes venues de bien d'autres endroits. Après cela, j'eus une grande peine d'esprit au sujet des rentées dans ces régions, qui avaient été grossiers lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas assisté. C'est pourquoi je fixai une réunion parmi eux, croyant que le Seigneur me donnerait puissance sur eux, ce qu'il fit à sa louange et à sa gloire, béni soit son nom à jamais. Beaucoup d'amis et beaucoup d'autres personnes, y compris des juges de paix et des officiers, étaient à cette réunion et furent généralement bien disposés envers la vérité. L'un d'eux, qui avait été juge de paix pendant 20 ans, fut convaincu et parla hautement de la vérité, et plus hautement de moi qu'il ne convient que je le mentionne ou que j'y prête attention. Nous eûmes une réunion à Providence très grande, composée de personnes de toutes sortes. J'avais une grande peine sur mon esprit, afin qu'il fût gardé dans le calme, et que la vérité vînt sur le peuple, qu'elle y gagnât entrée et qu'elle y place. Ces gens étaient généralement dans des notions plus élevées que les prêtres, et quelques-uns étaient venus pour disputer. Mais nous attendîmes le Seigneur et il fut avec nous, sa puissance passant sur eux tous, et sa semence bénie fut exaltée et établie au-dessus de tout. Les disputeurs se turent, la réunion fut paisible et se termina bien, loué soit le Seigneur. Le peuple s'en alla puissamment satisfait, avec grand désir d'une autre réunion. Ce lieu appelé Providence était à environ 30 milles de Rhode Island, nous y allâmes par eau. Le gouverneur de Rhode Island et beaucoup d'autres m'y accompagnèrent, et nous eûmes la réunion dans une grande grange, qui était bondée de gens, de sorte que j'avais extrêmement chaud et sué beaucoup, mais tout alla bien, et la glorieuse puissance du Seigneur brilla sur tous, à la gloire du grand Dieu à jamais. Après cela, nous allâmes à Narragansett, à environ 20 milles de Rhode Island, et le gouverneur alla avec nous. Nous eûmes une réunion chez un juge de paix, où les amis n'avaient jamais tenu de réunion auparavant. La réunion fut très grande, car la campagne vint en général, et aussi des gens du Connecticut et d'autres régions alentour. Il y avait 4 juges de paix. La plupart de ces personnes n'avaient jamais entendu les amis auparavant, mais elles furent puissamment touchées, et parmi elles il y a un grand désir de la vérité. Ainsi cette réunion rendit un très bon service, béni soit le Seigneur à jamais. Un autre juge de paix et le juge de paix chez qui se tenait la réunion m'invitèrent tous deux à revenir, mais j'étais alors quitte de ces régions et je me dirigeais vers Shelter Island. John Burneyat et John Cotray étaient arrivés de Nouvelle-Angleterre à Rhode Island avant mon départ. Je leur indiquai donc ce lieu pour leur service et me sentant attiré vers là, j'allai les visiter. Dans un autre endroit, j'entendis certains magistrats se dire entre eux, s'ils avaient assez d'argent, ils m'engageraient comme leur ministre. Cela montrait qu'ils ne nous comprenaient pas réellement, ni nos principes, mais quand je l'appris, je dis « Il est temps que je parte, car si leurs yeux sont tellement sur moi, ou sur l'un de nous, ils ne viendront pas à leur propre maître. » Car cette chose, engager des ministres en a gâté beaucoup, en les empêchant de développer leurs propres talents, tandis que notre travail est d'amener chacun à son propre maître en lui-même. Je partis d'ici vers Shelter Island, ayant avec moi Robert Withers, James Lancaster, George Pattison et John Jay, un planteur de la Barbade. Nous partîmes sur un sloop, et passant près de Point Judas et de Block Island, nous arrivâmes à Fishers Island, où, la nuit, nous débarquâmes, mais nous ne pûmes y rester à cause des moustiques, une sorte de moucherons ou de petites mouches, qui y abondent et sont très incommodants. Nous retournâmes donc dans notre sloop, nous éloignâmes du rivage, jetâmes l'ancre et passâmes la nuit dans le sloop. Le lendemain, nous entrâmes dans le détroit, mais trouvant que notre sloop ne pouvait pas mouiller dans ses eaux, nous revînmes et jetâmes l'ancre devant Fishers Island, où nous passâmes encore la nuit dans le sloop. Cette nuit-là, il plut fort, et comme notre sloop était ouvert, nous fûmes très mouillés. Le lendemain, nous franchîmes les eaux appelées les Two Horse Races, puis passâmes près de Garner's Island, après quoi nous passâmes près de Gull's Island, et arrivâmes enfin à Shelter Island, bien qu'il n'y eût qu'environ 27 lieues depuis Rhode Island. À cause de la difficulté du passage, nous mîmes 3 jours à y arriver. Le lendemain, étant premier jour dimanche, nous y eûmes une réunion. Dans la même semaine, j'eus une réunion parmi les Indiens, composée de leur roi, de son conseil, et d'environ 100 autres Indiens. Ils s'assirent comme les amis et écoutèrent très attentivement tandis que je leur parlais par un interprète, un Indien qui parlait bien anglais. Après la réunion, ils parurent très affectueux et reconnurent que ce qui leur avait été dit était la vérité. Le premier jour suivant, nous eûmes une grande réunion sur l'île, à laquelle vinrent beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu les amis auparavant. Ils furent très satisfaits de la réunion et ne voulaient pas s'en aller quand elle fut terminée avant de m'avoir parlé. J'allai parmi eux et trouvai qu'ils étaient fort touchés par la vérité, de bons désirs furent suscités en eux et un grand amour. Béni soit le Seigneur, son nom se répand et sera grand parmi les nations et redoutable parmi les païens. Pendant que nous étions à Shelter Island, William Edmondson vint à nous, il avait travaillé à l'œuvre du Seigneur en Virginie. De là, il avait voyagé à travers le pays désert, au milieu des difficultés et de nombreuses épreuves, jusqu'à Roanoke, où il rencontra un peuple sensible. Après 7 semaines de service dans ces régions, ayant navigué jusqu'au Maryland, puis à New York, il vint de là à Long Island, où nous le rencontrâmes et fûmes très heureux d'entendre parler du bon service qu'il avait eu pour le Seigneur dans les divers lieux où il avait voyagé depuis qu'il nous avait quittés. Nous ne restâmes pas longtemps à Sheltie Island, mais prîmes la mer dans notre sloop pour Long Island. Nous eûmes une traversée très rude, car pendant plusieurs heures, la marée, telle que je n'en avais jamais vue auparavant, courut si fortement contre nous que nous pouvions à peine avancer, bien que nous eussions un bon vent arrière. Nous fûmes sur l'eau tout ce jour-là et toute la nuit suivante. Le lendemain toutefois, nous nous trouvâmes repoussés près de Fishers Island parce qu'il y avait un grand brouillard, et vers le jour il faisait très sombre, si bien que nous ne pouvions voir quelle route nous faisions. De plus, il plut beaucoup la nuit, ce qui, dans notre sloop ouvert, nous mouilla fort. Le lendemain, une grande tempête se leva, si bien que nous fûmes heureux de traverser le détroit, et nous le fîmes non sans peine. Nous passâmes près de Falcon Island, et arrivâmes sur le continent, où nous jetâmes l'ancre jusqu'à ce que la tempête fût passée. Puis nous retraversâmes le détroit, tous très mouillés, et nous eûmes beaucoup de peine à gagner la terre, le vent étant fort contre nous. Mais béni soit le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, et des mers et des eaux, tout alla bien. Nous arrivâmes sains et saufs à Waste Bay, sur Long Island, le 7e du 6e mois, de très bonne heure le matin, ce qui, dit-on, est à environ 200 milles de Rhode Island. À Waste Bay, nous eûmes une très grande réunion. Le même jour, James Lancaster et Christopher Rolde traversèrent la baie vers Rye, sur le continent, dans le gouvernement du gouverneur Winthrop, et y tinrent une réunion. D'Waste Bay, nous parcourûmes environ 30 milles jusqu'à Flushing, où nous eûmes une très grande réunion, des centaines de personnes y étant présentes, certaines avaient fait environ 30 milles pour y venir. Ce fut une réunion glorieuse et céleste, loué soit le Seigneur Dieu, et le peuple fut très satisfait. Pendant ce temps, Christopher Rolde et quelques autres amis allèrent dans une ville de Long Island appelée Jamaica, et y tinrent une réunion. Nous passâmes de Flushing à Gravesend environ 20 milles, et y eûmes trois précieuses réunions. Beaucoup de gens seraient venus de New York, mais le temps les en empêcha. Étant quittes de cet endroit, nous louâmes un sloop, et le vent étant favorable, nous partîmes pour le nouveau pays maintenant appelé Jersey. Descendant la baie en passant près de Coney Island, Natton Island et Stratton Island, nous arrivâmes chez Richard Hartshorn, au port de Middletown, vers la pointe du jour, le 27e du 6e mois. Le lendemain, nous chevauchâmes environ 30 milles dans ce pays, à travers les bois, et par-dessus de très mauvais marécages, dont l'un pire que tous les autres, la descente y était si raide que nous fûmes contents de glisser avec nos chevaux, puis de les laisser se coucher et reprendre haleine avant de pouvoir continuer. Les gens du pays appelaient cet endroit le purgatoire. Nous arrivâmes enfin à Shrewsbury, dans East Jersey, et le premier jour dimanche nous y eûmes une précieuse réunion. Des amis et d'autres personnes vinrent de loin, et la présence bénie du Seigneur était avec nous. La même semaine, nous eûmes une réunion d'hommes et de femmes venant de la plupart des régions du New Jersey. Ils bâtissent un lieu de réunion au milieu d'eux, et une réunion mensuelle et générale a été établie, ce qui rendra grand service dans ces régions, en maintenant l'ordre évangélique et le gouvernement de Christ Jésus, dont l'accroissement n'a pas de fin, afin que ceux qui sont fidèles puissent veiller à ce que tous ceux qui professent la sainte vérité vivent dans la religion pure et marchent comme il convient à l'Évangile. Pendant que nous étions à Shrewsbury, un accident survint, qui fut pour un temps une grande épreuve pour nous. John Jay, un ami de la Barbade, qui était venu avec nous de Rhode Island et avait l'intention de nous accompagner à travers les bois jusqu'au Maryland, alla essayer un cheval. Montant sur le dos du cheval, celui-ci partit au galop et jeta John à terre sur la tête, lui brisant le cou, selon ce qu'en rapportèrent les gens. Ceux qui étaient près de lui le ramassèrent comme mort, le portèrent assez loin et le déposèrent sur un arbre. J'arrivai auprès de lui dès que je pus, et en le touchant je vis qu'il était mort. Tandis que je me tenais là, le plaignant ainsi que sa famille, je lui saisis les cheveux, et sa tête tournait dans tous les sens tant son cou était flasque. Alors je jetai mon bâton de monte et mes gants, et pris sa tête entre mes deux mains, sa tête tournait comme un chiffon. Appuyant mes genoux contre l'arbre, je relevai sa tête, et ne vis rien de déplacé ni de brisé de ce côté-là. Puis je mis une main sous son menton et l'autre derrière sa tête, et je relevai sa tête deux ou trois fois de toutes mes forces et la remis en place. Je perçus bientôt que son cou commençait à se raidir de nouveau, et alors il commença à râler dans sa gorge, et peu après à respirer. Les gens furent stupéfaits, mais je leur dis de prendre courage, d'avoir la foi, et de le porter dans la maison. Ils le firent et l'assirent près du feu. Je leur dis de lui donner quelque chose de chaud à boire et de le mettre au lit. Après qu'il eut été quelque temps dans la maison, il commença à parler, mais il ne savait pas où il avait été. Le lendemain, nous partîmes et parcourûmes, et lui avec nous, assez bien environ 16 milles, jusqu'à une réunion à Middleton, à travers des bois et des marécages, et par-dessus une rivière où nous fîmes nager nos chevaux, et nous passâmes nous-mêmes en nous tenant sur un arbre. Après cela, il voyagea avec nous plusieurs centaines de milles. À cette réunion, vint la plupart des gens de la ville. Nous eûmes une réunion glorieuse, et la vérité fut au-dessus de tout. Béni soit le grand Seigneur Dieu à jamais, après la réunion, nous allâmes environ 5 000 jusqu'au port de Middletown, afin d'entreprendre le lendemain matin notre long voyage à travers les bois vers le Maryland, ayant engagé des Indiens comme guides. Je résolus de passer par les bois de l'autre côté de la baie du Delaware, afin de remonter autant que possible l'origine des ruisseaux et des rivières. Le 9e du 7e mois, nous partîmes, passâmes par plusieurs villages indiens, et traversâmes quelques rivières et marécages. Après avoir chevauché environ 40 000, nous fîmes du feu la nuit et nous couchâmes auprès. En allant parmi les Indiens, nous leur déclarions le jour du Seigneur. Le lendemain, nous voyageâmes 50 000, comme nous l'estimions, et la nuit, trouvant une vieille maison que les Indiens avaient contraint les gens à quitter, nous fîmes du feu et nous couchâmes là, à la tête de la baie du Delaware. Le jour suivant, nous fîmes nager nos chevaux à travers une rivière d'environ 1 mille de large, d'abord jusqu'à une île appelée Apedinidoc, puis jusqu'au continent, ayant engagé des Indiens pour nous aider à passer dans leurs canots. Ce jour-là, nous ne voyageâmes qu'environ 30 000 et arrivâmes chez un Suédois, où nous trouvâmes un peu de paille et restâmes cette nuit-là. Le lendemain, ayant engagé un autre guide, nous voyageâmes environ 40 000 à travers les bois et fîmes du feu la nuit, auprès duquel nous couchâmes et nous séchâmes, car nous étions souvent mouillés dans nos voyages. Le jour suivant, nous franchîmes d'une rivière dangereuse, où il y avait beaucoup de rochers et de larges pierres, très périlleuses pour nous et nos chevaux. De là, nous arrivâmes à la rivière Christian, où nous fîmes nager nos chevaux, et nous passâmes nous-mêmes en canot, mais les rives de la rivière étaient si bourbeuses que quelques chevaux faillirent être tués. De là, nous arrivâmes à Newcastle, auparavant appelé New Amsterdam, et étant très fatigués, nous demandâmes en ville où nous pourrions acheter du grain pour nos chevaux. Le gouverneur vint et m'invita chez lui, puis me pria de loger là, me disant « J'ai un lit pour vous, et vous serez le bienvenu ». Je restai donc, tandis que les autres amis y furent aussi logés. C'était un 7e jour, et il offrit sa maison pour une réunion. Le lendemain, nous eûmes une réunion assez grande, à laquelle assista la plupart des gens de la ville, y compris le gouverneur et sa femme, le shérif et le scout, un homme fort estimé parmi eux. Il n'y avait jamais eu de réunion nulle part près d'ici, mais celle-ci fut très précieuse. Beaucoup furent touchés et reconnurent la vérité, et quelques-uns la reçurent. Béni soit le Seigneur à jamais. Le 16e du 7e mois, nous repartîmes et voyageâmes, autant que nous pouvions l'estimer, environ 50 000 à travers les bois et par-dessus les marécages, en remontant la rivière Bomia et la rivière Sassafra. La nuit, nous fîmes du feu dans les bois et y restâmes toute la nuit. Comme il pleuvait, nous nous mîmes sous des arbres épais pour nous abriter, puis nous nous séchâmes de nouveau près du feu. Le lendemain, nous traversâmes à gué la rivière Chesté, une rivière très large, et ensuite, passant par de nombreux mauvais marécages, nous couchâmes encore cette nuit-là dans les bois près d'un feu, n'ayant pas fait plus de 30 000 ce jour-là. Le jour suivant, nous voyageâmes durement, bien que nous eussions quelques marécages difficiles sur notre route, nous chevauchâmes environ 50 000, et arrivâmes en sûreté cette nuit-là chez Robert Howard, à la rivière Mille, dans le Maryland. C'était le 18e du 7e mois, et bien que nous fussions très fatigués, et beaucoup salis par les marécages, apprenant qu'il y avait une réunion le lendemain, nous y allâmes, et de là chez John Edmondson, d'où nous allâmes 3 ou 4 000 par eau à une réunion le premier jour dimanche suivant. Il y avait là la femme d'un juge, qui n'avait jamais assisté à aucune de nos réunions auparavant, elle fut touchée et dit après la réunion, « J'aimerais mieux vous entendre une fois que les prêtres 1 000 fois ». Beaucoup d'autres aussi furent très satisfaits, car la puissance du Seigneur était éminemment avec nous. Béni à jamais soit son saint nom. De là, nous passâmes environ 22 000 et eûmes une bonne réunion sur la rive du Kent, à laquelle vint l'un des juges. Après une autre bonne réunion proche, chez William Wilcox, où nous eûmes un bon service pour le Seigneur, nous allâmes par environ 20 000 à une très grande réunion, où se trouvaient quelques centaines de personnes, et 4 juges de paix, le grand shérif du Delaware et d'autres de là. Il y avait un empereur ou gouverneur indien, et 2 autres des principaux hommes parmi les Indiens. Avec ces Indiens, j'eus une bonne occasion. Je leur parlai par un interprète, ils écoutèrent la vérité attentivement et furent très affectueux. Ce fut une réunion bénie, de grands services tant pour convaincre que pour affermir dans la vérité ceux qui en étaient convaincus. Béni soit le Seigneur, qui fait se répandre sa vérité bénie. Après la réunion, une femme vint à moi, dont le mari était l'un des juges de ce pays et membre de l'Assemblée. Elle me dit, « Mon mari est malade, il n'est pas probable qu'il vive, et il désire que j'aille avec vous à la maison pour le voir. » Sa maison était à 3 000, et moi, venant de sortir de la réunion tout échauffée, il m'était difficile d'y aller alors. Toutefois, considérant le service, je pris un cheval, j'allai avec elle visiter son mari, et lui parlai de ce que le Seigneur me donnait. L'homme fut beaucoup rafraîchi et admirablement relevé par la puissance du Seigneur, et ensuite il vint à nos réunions. Je retournai auprès des amis cette nuit-là, et le lendemain nous partîmes de là pour parcourir environ 19 ou 20 milles jusqu'au ruisseau de Trodaven, chez John Edmondson de nouveau, d'où, le troisième du huitième mois, nous allâmes à la réunion générale de tous les amis du Maryland. Cette réunion se tint pendant 5 jours. Les 3 premiers, nous eûmes des réunions de culte public, auxquelles vinrent des gens de toutes sortes, les 2 autres furent consacrées aux réunions des hommes et des femmes. À ces réunions, publiques vinrent de nombreux protestants de diverses sortes, et quelques papistes, parmi lesquels plusieurs magistrats et leurs femmes, et d'autres personnes de premier rang dans le pays. Pour le peuple ordinaire, on pensait qu'il y en avait parfois 1000 à l'une de ces réunions, si bien que, bien qu'ils eussent agrandi leur maison de réunion et l'eussent rendue 2 fois plus grande qu'auparavant, elle ne pouvait contenir les gens. J'allais chaque jour en bateau 4 ou 5 milles jusqu'à la réunion, et il y avait alors tant de bateaux passant sur la rivière que c'était presque comme la Tamise. Les gens disaient, « On n'a jamais vu tant de bateaux ensemble ici auparavant » et l'un des juges dit, « Je n'ai jamais vu tant de personnes ensemble dans ce pays. » Ce fut une réunion très céleste, où la présence du Seigneur se manifesta glorieusement, les amis furent doucement rafraîchis, le peuple généralement satisfait, et beaucoup furent convaincus, car la puissance bénie du Seigneur était au-dessus de tout, louanges éternelles à son saint nom à jamais. Après la fin des réunions publiques, commencèrent celles des hommes et des femmes, qui eurent lieu les 2 autres jours, et j'eus quelque chose à leur communiquer concernant la gloire de Dieu, l'ordre de l'Évangile et le gouvernement de Christ Jésus. Quand ces réunions furent terminées, nous prîmes congé des amis de ces régions, que nous laissâmes bien établis dans la vérité. Le 10e du 8e mois, nous parcourûmes environ 30 000 par eau, passant près de Crane Island, Swan Island et Kent Island, par un temps très mauvais et une forte pluie. Notre bateau étant ouvert, nous fûmes non seulement trempés, mais en grand danger de chavirer. La tempête était si violente que certains pensaient que nous ne pouvions échapper au naufrage jusqu'à ce qu'ils nous voient gagner le rivage le lendemain matin. Mais béni soit Dieu, nous allions très bien. Ayant atteint une petite maison, séché nos vêtements près du feu et nous étant un peu rafraîchis, nous reprîmes notre bateau et quittâmes la terre tantôt à la voile, tantôt à la rame, mais le temps étant très mauvais, nous ne pûmes avancer de plus de 12 milles. La nuit, nous gagnâmes la terre et fîmes du feu près duquel quelques-uns se couchèrent, et d'autres se rassemblèrent près d'un feu dans une maison un peu plus loin. Le lendemain matin, nous traversâmes la grande baie et naviguâmes environ 40 milles ce jour-là. Abordant le rivage la nuit, nous y couchâmes, certains dans le bateau et d'autres dans une taverne. Le lendemain matin, étant premier jour dimanche, nous allâmes 6 ou 7 milles chez un ami juge de paix où nous eûmes une réunion. C'était un peu au-dessus de la tête de la grande baie. Nous fûmes presque 4 jours sur l'eau, fatigués d'avoir ramé, mais tout alla très bien, béni et loué soit le Seigneur. Le lendemain, nous allâmes chez un autre ami, au-delà de la tête de Rattan's Island, où nous eûmes un bon service, comme nous en eûmes aussi le jour suivant chez George Wilson, un ami qui habitait environ 3 milles plus loin, où nous eûmes une réunion très précieuse, car il y avait une grande sensibilité parmi les gens. Après cela, nous naviguâmes environ 10 milles jusqu'à chez James Frisbee, juge de paix, où le 16e du 8e mois, nous eûmes une très grande réunion à laquelle, outre les amis, se trouvaient quelques centaines de personnes à ce qu'on supposait. Parmi elles, il y avait plusieurs juges de paix, des capitaines et le shérif, ainsi que d'autres personnes notables. Ce fut une réunion bénie et céleste, un témoignage puissant et étonnant pour la vérité y fut rendu, un grand poids reposait sur le peuple, et il y eut beaucoup de brisements et de tendresse parmi eux. Nous restâmes jusqu'à environ la 11e heure de la nuit, quand la marée tourna en notre faveur. Prenant un bateau, nous parcourûmes cette nuit-là et le jour suivant environ 50 milles jusqu'à la maison d'un autre ami. Les 2 jours suivants, nous fîmes de courts trajets en visitant les amis. Le 20e, nous eûmes une grande réunion en un lieu appelé Severn, où il y avait une maison de réunion, mais pas assez grande pour contenir les gens. Plusieurs principaux magistrats y assistèrent, avec beaucoup d'autres personnes considérables, et cela leur donna généralement grande satisfaction. 2 jours plus tard, nous eûmes une réunion avec quelques-uns qui avaient marché dans le désordre, et ce fut un bon service. Puis, passant 1 ou 2 jours à visiter les amis, nous gagnâmes la rive occidentale, et le 25e nous eûmes une grande et précieuse réunion chez William Coal, où le président de leur assemblée, avec sa femme, un juge de paix, et plusieurs personnes de qualité étaient présents. Le lendemain, nous eûmes une réunion 6 ou 7 milles plus loin, chez Abraham Buckhead, où se trouvaient beaucoup de magistrats et de personnes de rang supérieur, et le président de l'assemblée de ce pays fut convaincu. Ce fut une réunion bénie, loué soit le Seigneur. Nous voyageâmes le lendemain, et le jour suivant, le 28e du 8e mois, Eûmes une grande et très précieuse réunion chez Peter Sharp, au Clift, à une distance de 30 à 40 milles de la précédente. Beaucoup de magistrats et de personnes de haut rang étaient présents, et ce fut une réunion céleste. La femme d'un membre du conseil du gouverneur fut convaincue, et son mari était très affectionné envers les amis. Un juge de paix de Virginie fut convaincu et tient depuis une réunion chez lui. Quelques papistes étaient à cette réunion, dont l'un avait menacé avant de venir de disputer avec moi, mais il fut touché et ne put s'opposer. Béni soit le Seigneur, la vérité pénétra dans le cœur des gens au-delà des mots, et elle a parmi eux une bonne odeur. Après la réunion, nous allâmes environ 18 milles chez James Preston, un ami qui habitait sur la rivière Patux. Un roi indien vint, avec son frère à qui je parlais, et je trouvai qu'il comprenait ce dont je parlais. Ayant achevé notre service dans le Maryland et nous dirigeant vers la Virginie, nous eûmes une réunion à Patux le 4e du 9e mois pour prendre congé des amis. Beaucoup de gens de toutes sortes y assistèrent et ce fut une réunion puissante. Le 5e du 9e mois, nous mîmes les voiles pour la Virginie et en 3 jours arrivâmes à Nansemum, à environ 200 milles du Maryland. Durant ce voyage, nous rencontrâmes un mauvais temps, des tempêtes et de la pluie, et la nuit nous couchâmes dans les bois près d'un feu. Une amie y vivait, appelée la veuve Wright. Le lendemain, nous eûmes une grande réunion à Nansemum, d'amis et d'autres personnes. Le colonel Dews vint à cette réunion, avec plusieurs autres officiers et magistrats, qui furent très touchés par la déclaration de la vérité. Après la réunion, nous nous hâtâmes vers la Caroline, toutefois, nous eûmes plusieurs réunions en chemin. Un vieil homme, juge de paix, vint vers un ami et dit que George Fox était un homme très célèbre. Ici, nous eûmes un bon service pour le Seigneur, une réunion à environ 4 milles de l'eau de Nansemum, qui fut très précieuse, et une réunion d'hommes et une réunion de femmes furent établies pour les affaires de l'Église. Nous eûmes une autre très bonne réunion chez William Yarrow, à Pagan Creek. Elle était si grande que nous fûmes heureux d'être dehors, la maison n'étant pas assez grande pour contenir les gens. Il y eut une grande ouverture, le bruit de la vérité se répandit au loin et eut une bonne odeur dans le cœur des gens. Que le Seigneur ait la gloire à jamais. Après cela, notre chemin vers la Caroline devint pire, une grande partie étant boueux et assez remplie de grands marécages et de marais, si bien que nous étions communément mouillés jusqu'aux genoux, et que nous couchions dehors la nuit dans les bois près d'un feu, sauf une nuit où nous arrivâmes à une pauvre maison à Sommetown, et couchâmes près du feu. La femme de la maison avait un sentiment de Dieu sur elle. Le bruit de notre voyage était parvenu jusque-là, et avait attiré certains qui vivaient au-delà de Sommetown vers cette maison, dans l'attente de nous voir et de nous entendre, mais ils nous manquèrent. Le lendemain, le 21e du 9e mois, après avoir voyagé durement à travers les bois et sur beaucoup de marécages et de marais, nous atteignîmes Bonus Creek. Nous y couchâmes cette nuit-là près du feu, la femme nous prêtant une natte pour nous y étendre. Ce fut la première maison où nous arrivâmes en Caroline. Là, nous laissâmes nos chevaux exténués par le voyage. De là, nous descendîmes le ruisseau en canot jusqu'à la rivière Macocomococ et arrivâmes chez Hugh Smith, où des gens d'autres confessions vinrent nous voir, aucun ami n'habitant cette partie du pays, et beaucoup d'entre eux nous reçurent volontiers. Entre autres vint Nathaniel Batt, qui avait été gouverneur de Roanoke. On l'appelait capitaine Batt, et il avait été un homme grossier et désespéré. Il m'interrogea au sujet d'une femme à Cumberland qui, disait-il, avait, selon ce qu'on lui avait rapporté, été guérie par nos prières et l'imposition des mains, après avoir été longtemps malade et abandonnée par les médecins. Il désirait en connaître la certitude. Je lui dis que nous ne nous glorifions pas de telles choses, mais que beaucoup de choses de ce genre avaient été faites par la puissance du Christ. Non loin d'ici, nous eûmes une réunion parmi les gens, et ils furent touchés par la vérité, béni soit le Seigneur. Puis, descendant la rivière Maratique en canot, nous descendîmes, la baie de Conioc, jusqu'à chez un capitaine, qui nous témoigna de l'affection et nous prêta son bateau, car nous étions trempés dans le canot, l'eau y éclaboussant sur nous. Avec ce bateau, nous allâmes chez le gouverneur, mais l'eau, en certains endroits, était si peu profonde que le bateau lourdement chargé ne pouvait passer, si bien que nous ôtâmes nos chaussures et nos bas et marchâmes dans l'eau sur une assez longue distance. Le gouverneur et sa femme nous reçurent avec affection, mais un médecin voulut disputer avec nous. En vérité, son opposition nous fut utile, car elle nous donna l'occasion d'expliquer aux gens beaucoup de choses concernant la lumière et l'Esprit de Dieu. Le médecin niait que la lumière fût en chacun et affirmait qu'elle n'était pas dans les Indiens. Sur quoi j'appelai un Indien auprès de nous, et lui demandai si, lorsqu'il mentait ou faisait du mal à quelqu'un, n'y avait-il pas en lui quelque chose qui le reprenait pour cela. Il répondit qu'il y avait en lui une telle chose, qui le reprenait, et qu'il avait honte quand il avait mal fait ou mal parlé. Ainsi nous fîmes honte aux médecins devant le gouverneur et le peuple, à tel point que le pauvre homme poussa ses arguments si loin qu'il en vint à nier les Écritures. Nous restâmes chez le gouverneur cette nuit-là, et le lendemain matin, il marcha très courtoisement avec nous environ 2 miles à travers les bois jusqu'à un endroit où il avait demandé qu'on amenât le bateau pour nous rejoindre. Après l'avoir quitté, nous montâmes dans notre bateau et parcourûmes environ 30 miles jusqu'à chez Joseph Scott, l'un des représentants du pays. Là, nous eûmes une réunion solide et précieuse, les gens étaient sensibles et désiraient vivement notre réunion. C'est pourquoi, dans une maison environ 4 miles plus loin, nous eûmes une autre réunion, à laquelle vint le secrétaire du gouverneur, qui était secrétaire en chef de la province et avait été auparavant convaincu. Je partis de cet endroit parmi les Indiens, et leur parlai par un interprète, leur montrant que Dieu fit toutes choses en 6 jours, et fit un homme et une femme, et que Dieu noya l'ancien monde à cause de leur méchanceté. Ensuite je leur parlai du Christ, leur montrant qu'il est mort pour tous les hommes pour leurs péchés comme pour les autres, et qu'il les avait éclairés eux aussi comme les autres, et que s'ils faisaient le mal, il les brûlerait, mais s'ils faisaient bien, ils ne seraient pas brûlés. Parmi eux se trouvaient leur jeune roi et d'autres de leurs principaux hommes, qui semblèrent recevoir avec bonté ce que je leur disais. Puis je retournai à la maison d'où je venais, à environ 2 000 paros et par terre. Le premier du 10e mois, nous descendîmes de 5 000 paros, qui était si peu profonde que moi et les autres dûmes ôter nos chaussures et nos bas pour pousser le bateau. Ce jour-là, nous eûmes une grande réunion bénie, à laquelle assistèrent plusieurs Indiens et leurs femmes, dont de grands hommes du conseil du roi et un désigné pour être le prochain roi. Ils furent tous très sensibles et affectueux envers nous, comme l'étaient aussi tous les gens de là. Après la réunion, je voyageai environ 5 ou 6 000 par terre et par eau jusqu'à la maison de Joseph Scott, où nous eûmes une journée de lavage et de balayage purification spirituelle de ceux qui s'étaient souillés. Après avoir visité la partie nord de la Caroline et y avoir fait une petite entrée pour la vérité parmi les gens, nous commençâmes à retourner vers la Virginie, tenant plusieurs réunions en chemin. Là, nous eûmes un bon service pour le Seigneur, le peuple étant généralement tendre et ouvert, béni soit le Seigneur. Nous passâmes une nuit chez le secrétaire, un lieu où nous eûmes beaucoup de peine à parvenir, car l'eau était si peu profonde que nous ne pouvions amener notre bateau jusqu'au rivage. Mais la femme du secrétaire vit notre embarras et vint seule en canoë, son mari étant absent, et nous conduisit à terre. Le lendemain matin, notre bateau était coulé et rempli d'eau, mais nous le relevâmes du fond, le réparâmes, et repartîmes ce jour-là avec lui sur environ 24 milles. L'eau était agitée et les vents forts, mais la grande puissance de Dieu se manifesta en nous portant sains et saufs dans ce bateau pourri. À notre retour, nous eûmes une réunion très précieuse chez Hugh Smith, loué soit le Seigneur à jamais, le peuple y fut très tendre, et nous eûmes parmi eux un très bon service. À cette réunion se trouvait un capitaine indien, qui fut très affectueux et reconnut la vérité qui avait été dite dans la réunion. Il y avait aussi un des prêtres indiens, qu'ils appelaient un Pow, qui était assis sobrement parmi les gens. Le 9e jour du 10e mois, nous revînmes à Bonnes Creek, où nous avions laissé nos chevaux, après avoir passé environ 18 jours dans le nord de la Caroline. Nos chevaux s'étant reposés, nous nous remîmes en route pour la Virginie, voyageant à travers les bois et les tourbières autant que nous pouvions raisonnablement atteindre ce jour-là, et dormant la nuit auprès d'un feu dans les bois. Le lendemain, nous eûmes un pénible voyage à travers tourbières et marécages, et fûmes toute la journée extrêmement mouillés et sales, mais nous nous séchâmes auprès d'un feu la nuit. Cette nuit-là, nous arrivâmes à Somertown. À mesure que nous approchions d'une maison, la femme de la maison nous vit et dit à son fils de retenir leur chien, car tant en Virginie qu'en Caroline, ils gardaient généralement de grands chiens pour protéger leur maison, vivant isolés dans les bois. Mais le fils répondit, « Ce n'est pas nécessaire, car nos chiens ne sentent pas le besoin de s'en prendre à ces gens-là. » Quand nous entrâmes dans la maison, elle nous dit, « Vous êtes comme les enfants d'Israël, contre lesquels les chiens ne remuaient pas la langue. » Ainsi nous passâmes toute la journée dans les bois et les tourbières, parfois dans une eau jusqu'aux genoux. Nous étions très inconfortablement mouillés. Nous arrivâmes à Somertown mouillés et sales. Nous nous couchâmes là, vêtus près du feu, comme nous l'avions fait bien des nuits auparavant. Les gens avaient été informés de notre venue et désiraient vivement nous entendre. Le lendemain, nous tîmes donc une réunion. Ce fut une très bonne réunion parmi eux, où nous n'en avions jamais eu auparavant, loué soit le Seigneur à jamais. Après la réunion, nous nous hâtâmes de partir. Après avoir chevauché environ 20 milles, nous nous arrêtâmes à une maison pour demander notre chemin. Les gens désirèrent que nous restions chez eux pour la nuit, ce que nous fîmes. Le lendemain, nous fîmes encore environ 18 milles. Après avoir parcouru environ 100 milles de la Caroline vers la Virginie, le jour suivant nous arrivâmes parmi les amis. Pendant ce voyage, nous observâmes une grande variété de climats, étant passés en quelques jours d'un pays très froid à un pays chaud et printanier, puis de nouveau à un pays très froid. Mais la puissance du Seigneur est la même partout, elle est au-dessus de tout, et elle atteint le bien en tout, loué soit le Seigneur à jamais. Nous passâmes environ 3 semaines à voyager en Virginie, principalement parmi les amis, ayant de grandes et précieuses réunions dans plusieurs endroits du pays, comme celle que nous eûmes chez la veuve Wright, où vinrent le major général, le grand shérif, un autre major, un juge de paix et d'autres personnes éminentes. Nous eûmes une réunion des plus célestes, la puissance du Seigneur y fut si grande qu'elle jeta une crainte sur l'assemblée, enchaîna tous les esprits et fit naître la révérence dans les pensées du peuple. Une femme en fut si touchée qu'elle dit « C'est un homme digne et digne d'être entendu ». Parmi les officiers se trouvait un major, parent de moi, qui me dit « Le prêtre a menacé de venir et de s'opposer à nous, et le major dit au prêtre qu'il serait convaincu s'il m'entendait ». Mais la puissance du Seigneur fut trop forte pour lui, l'arrêta, et nous fûmes dans le calme et la paix. Le peuple fut merveilleusement affecté par le témoignage de la vérité, béni soit le Seigneur à jamais. Le 16 jour, nous parcourûmes 6 000 par eau jusqu'à chez la veuve Norton, et le 17 jour, nous parcourûmes 12 000 par eau et 2 000 par terre pour une réunion à Krikatruff, où vinrent beaucoup de personnes considérables qui n'avaient jamais entendu un ami auparavant, et ils furent grandement satisfaits, loué soit le Seigneur. Nous eûmes aussi une très bonne et utile réunion chez John Porté, composée principalement d'autres gens, où la puissance du Seigneur fut glorieusement vue et ressentie. Elle fit triompher la vérité sur tous les mauvais marcheurs et bavards. Béni soit le Seigneur, nous eûmes plusieurs autres réunions et de nombreuses occasions de service pour le Seigneur parmi les gens là où nous passâmes. La dernière semaine de notre séjour fut passée avec les amis, prenant le temps et la peine de balayer ce qu'il fallait faire sortir et d'abaisser un mauvais esprit qui s'était élevé chez quelques-uns. Et béni soit à jamais le nom du Seigneur, c'est lui qui donne la victoire sur toute chose. Ayant achevé le service qui nous incombait en Virginie, le 30e du 10e mois, nous nous embarquâmes sur un sloop ouvert pour le Maryland. Mais nous eûmes une grande tempête, et trempés, nous fûmes contents de gagner la rive avant la nuit. Nous marchâmes jusqu'à une maison à Willoughby Point, et y obtînmes le gîte pour cette nuit-là. La femme de la maison était une veuve, une personne très tendre. Elle n'avait jamais reçu d'amis auparavant, mais elle nous reçut très aimablement, les larmes aux yeux. Nous retournâmes à notre bateau le matin et hissâmes la voile, avançant aussi vite que possible. Mais vers le soir une tempête se leva et le vent fut fort, de sorte que nous eûmes beaucoup de peine à gagner la rive, car notre bateau était ouvert, l'eau y entrait souvent et parfois nous passait par-dessus, si bien que nous fûmes entièrement trempés. Arrivés à terre, nous fîmes un feu dans les bois pour nous réchauffer et nous sécher, et nous y restâmes couchés toute cette nuit-là, les loups hurlant autour de nous. Le 1er du 11e mois, nous reprîmes la voile, mais comme le vent nous était contraire, nous fîmes peu de chemin et fûmes contents de gagner la rive à Point Comfort. Nous trouvâmes ici peu de confort, car le temps était si froid que, même près d'un feu de bonne taille pour dormir dans les bois, notre eau resta gelée. Cette nuit-là encore, nous couchâmes dans les bois, avec les loups rugissant autour de nous. Le lendemain, nous gagnâmes la mer, mais le vent soufflait si fort contre nous que nous avançâmes très peu. Nous fûmes contents de regagner la terre et de parcourir les environs afin de trouver une maison ou acheter des provisions, car nos provisions étaient épuisées. Nous passâmes près d'un bateau de la Barbade, lui aussi immobilisé par le temps comme nous, et il avait des lettres pour moi du juge Fretwell. Nous retournâmes par terre en arrière d'environ 10 000 afin d'obtenir davantage de provisions. Cette nuit-là, tandis que nous couchions dans les bois, la neige et le froid furent si grands que certains eurent peine à les supporter. Le 3e du 11e mois, le vent soufflait assez favorablement, nous profitâmes du vent en voguant et en ramant, et gagnâmes Milford Haven, où nous logeâmes chez Richard Long, près de Quincy's Island. La nuit fut si froide que je restai dans mon lit tout habillé. Le lendemain, nous passâmes près de la rivière Rappahannock, où vivaient beaucoup de gens, et les amis y tinrent une réunion chez un juge de paix, qui avait autrefois assisté à une réunion où j'avais été aussi. Nous traversâmes aussi la rivière Potomac, les vents étaient forts, l'eau très agitée et le temps extrêmement froid. Nous y eûmes une réunion, et certains furent convaincus. Lorsque nous nous séparâmes là, quelques-uns de notre compagnie restèrent avec eux. Nous mîmes le cap sur la rivière Patux. Notre bateau était ouvert, le temps extrêmement froid, et je fus poussé à rester à la barre la plus grande partie du jour et de la nuit. Vers la première heure du matin, nous atteignîmes chez James Preston sur la rivière Patux, qu'on estime être à environ 200 milles de Nansemum en Virginie. Nous étions très fatigués, pourtant, le lendemain, qui était le premier jour de la semaine, nous allâmes à la réunion non loin de là. La même semaine, nous allâmes à la cabane d'un roi indien, où se trouvaient plusieurs Indiens avec lesquels nous eûmes une bonne occasion de tenir une réunion et ils se conduisirent très affectueusement. Nous allâmes aussi cette semaine-là à une assemblée générale. De là nous allâmes environ 18 milles plus loin chez John Geary, où nous eûmes une réunion très précieuse, loué soit le Seigneur Dieu à jamais. Après cela, le froid devint si excessivement mordant, avec un gel si extrême et un temps neigeux au-delà de ce qui était habituel dans ce pays, que nous pouvions à peine le supporter. Il n'était pas non plus facile ni sûr de voyager. Pendant une semaine, nous fûmes retenus, ne pouvant voyager que 2 milles. Plus tard, mais toujours avec grande difficulté, nous parcourûmes 6 milles dans la neige jusqu'à chez John Mayer, où nous rencontrâmes quelques amis venus de Nouvelle-Angleterre. Nous avions laissé ces amis en Nouvelle-Angleterre lorsque nous nous étions mis en route, et nous fûmes heureux de nous revoir après des voyages si longs et si pénibles. De ces amis, nous apprîmes, un que William Edmondson, après avoir été à Rhode Island et en Nouvelle-Angleterre, était parti de là pour l'Irlande, deux que Solomon Eccles, venant de la Jamaïque et ayant débarqué à Boston en Nouvelle-Angleterre, avait été arrêté lors d'une réunion et banni à la Barbade, trois que John Stubbs et un autre ami étaient partis pour le New Jersey, et quatre que plusieurs autres amis étaient allés à la Barbade, à la Jamaïque et aux îles sous le vent. Ce fut pour nous une joie de comprendre que l'œuvre du Seigneur allait de l'avant et prospérait, et que les amis étaient infatigables et diligents dans le service. Le 27e du 11e mois, nous eûmes une réunion très précieuse dans une maison de tabac. Nous remarquâmes qu'il était quelque peu étrange, mais certainement vrai, qu'un jour, au milieu de ce temps froid, le vent tournant au sud, il fit si chaud que nous supportions à peine la chaleur, et le lendemain et la nuit suivante, le vent revenant brusquement au nord, nous pouvions à peine supporter le froid. Le lendemain, nous retournâmes chez James Preston, à environ 18 milles. En arrivant, nous trouvâmes que sa maison avait brûlé jusqu'au sol la nuit précédente, par la négligence d'une servante, ainsi nous couchâmes 3 nuits sur le sol près du feu, car le temps était très froid. C'était dans cette maison que nous avions laissé toutes nos boîtes, nos vêtements et nos nécessités, y compris mon coffre et celui de James Lancaster, tout fut brûlé. Le 2e du 12e mois, nous eûmes une glorieuse réunion à Patux, et après, nous allâmes de nouveau chez John Geary, où nous attendîmes un bateau pour nous conduire à la réunion mensuelle au Cliff. Nous y allâmes, et ce fut une réunion vivante, loué soit le Seigneur, c'était le 6e du 12e mois. Nous eûmes une autre réunion le 9e, là, la gloire du Seigneur resplendit sur tous, béni et magnifié soit son saint nom à jamais. Le 12e du 12e mois, nous repartîmes dans notre bateau et, voyageant de nuit, nous échouâmes dans un ruisseau près de la rivière Manaco. Nous fûmes contents d'y rester jusqu'au matin, lorsque la marée vint et souleva le bateau du fond. Entre-temps, assis dans un bateau ouvert, et le temps étant d'un froid âpre, certains d'entre nous avaient presque perdu l'usage de leurs mains, tant elles étaient gelées et engourdies. Le matin, lorsque la marée remit notre bateau à flot, nous gagnâmes la terre et fîmes un bon feu auprès duquel nous nous réchauffâmes bien. Nous reprîmes alors le bateau et passâmes environ 10 milles plus loin jusqu'à la maison d'un ami, où le lendemain nous eûmes une réunion très précieuse à laquelle assistèrent quelques chefs indiens du voisinage. Après la réunion, j'allai chez un ami à environ 4 milles, à la tête de la rivière Anamessi. Le jour suivant, le juge du pays et un juge de paix avec lui vinrent me voir, et ils furent très affectueux et grandement satisfaits de l'ordre des amis. Le lendemain, nous eûmes une grande réunion dans la grange du juge de paix, car sa maison n'était pas assez grande pour le nombre de gens venus. Il y avait plusieurs grands personnages de ce pays, et parmi les autres, un opposant, mais tout fut gardé dans le calme et en bon ordre. Ce fut une réunion précieuse, le peuple fut beaucoup touché par la vérité, béni soit le Seigneur. Le lendemain, nous allâmes voir le capitaine Colburn, juge de paix, et là nous fûmes utiles au dessein du Seigneur. Puis, revenant encore, nous eûmes une réunion très glorieuse chez le juge de paix, où nous nous étions réunis auparavant, à laquelle vinrent beaucoup de personnes de considération dans le monde, magistrats, officiers et autres. Ce fut une grande réunion, et la puissance du Seigneur y fut fortement ressentie, de sorte que les gens furent généralement très satisfaits et gagnés par la vérité, et il y avait plusieurs marchands et capitaines de navires de Nouvelle-Angleterre, si bien que la vérité se répandit au loin, béni soit le Seigneur. Un jour ou deux après, nous parcourûmes environ 16 milles à travers bois et tourbières, en remontant les rivières Anamessi et Amoroka, dont une partie fut franchie en canoë, et nous arrivâmes à la maison d'une femme aimable à Manoc, où le 24e du 12e mois, nous eûmes une grande réunion dans une grange. La présence vivante du Seigneur était avec nous et parmi le peuple, béni soit son saint nom à jamais, les amis n'avaient jamais eu de réunion dans ces contrées auparavant. Après cela, nous traversâmes la rivière Wicocomaco, et par beaucoup de mauvais marécages inondés et de chemins bourbeux, arrivâmes enfin chez James Jones, un ami et juge de paix, où nous eûmes une grande et très glorieuse réunion, loué soit le Seigneur Dieu. Puis, passant l'eau en bateau, nous prîmes des chevaux et parcourûmes environ 24 milles à travers bois et marécages pénibles, et arrivâmes à la maison d'un autre juge de paix, où nous eûmes une très grande réunion. Beaucoup de gens, et beaucoup de personnes de rang et de réputation considérable, étaient présents, et la présence vivante du Seigneur était parmi nous, loué à jamais soit son saint nom. C'était le troisième du premier mois 1672-3. Le cinquième du même mois, nous eûmes une autre réunion vivante et céleste, où se trouvaient plusieurs juges de paix avec leurs épouses et beaucoup d'autres. Parmi eux, nous eûmes un très bon service pour le Seigneur, béni soit son saint nom. À cette réunion se trouvait une femme qui vivait à Annamessy et qui, depuis de nombreuses années, avait eu de la peine dans son esprit, et parfois restait abattue près de 2 mois d'affilée. Elle pouvait à peine parler ou s'occuper de quoi que ce soit. Quand j'entendis parler d'elle, je fus poussé par le Seigneur à aller vers elle et à lui dire que le salut était venu dans sa maison. Après lui avoir parlé la parole de vie et avoir supplié le Seigneur pour elle, elle fut guérie. Elle nous accompagna dans la région aux réunions, et depuis lors elle s'est bien portée, béni soit le Seigneur. Nous quittâmes Annamessy le septième du premier mois, et parcourant par eau environ 50 milles, nous arrivâmes à la maison d'une femme aimable à un Gérivé. Nous eûmes un temps très rude pendant cette traversée, et nous fûmes en grand danger, car le bateau avait failli se retourner. Mais par la bonne providence de Dieu, nous y arrivâmes sains et saufs, loué soit son nom, en ce lieu, nous tînmes une réunion. Parmi les gens se trouvaient 2 papistes, un homme et une femme. L'homme était très tendre, et la femme reconnut la vérité. Je n'avais avec moi aucun ami, sinon Robert Withers, les autres s'étant dispersés dans diverses parties du pays au service de la vérité. Dès que le vent le permit, nous parcourûmes d'ici environ 40 000 par eau, ramant la plus grande partie du chemin, et arrivâmes à la tête de la rivière Little Choptank, chez le D.R. Winsmont, juge de paix récemment convaincu. Là nous rencontrâmes quelques amis, avec lesquels nous restâmes quelque temps, puis nous continuâmes par terre et par eau, et nous eûmes une grande réunion à l'extérieur, car la maison ne pouvait contenir tout le monde. Plusieurs magistrats et leurs femmes étaient présents, et ce fut une bonne réunion, béni soit le Seigneur, qui fait connaître son nom dans ce pays de wilderness. De là, nous allâmes chez William Stephen, où nous retrouvâmes ses amis qui avaient voyagé dans d'autres régions, et nous fûmes grandement rafraîchis ensemble dans le Seigneur. Ici, nous nous partageâmes l'un à l'autre le bon succès que nous avions eu dans l'œuvre du Seigneur, et la prospérité et la diffusion de la vérité dans les lieux où nous avions voyagé. John Cartwright et un autre ami avaient été en Virginie, où il y avait parmi les gens de grande faim de la vérité. Ses amis étant à présent revenus, restèrent un peu avec nous ici, puis partirent pour la Barbade. Avant de quitter cet endroit, nous eûmes une réunion très glorieuse, à laquelle assistèrent beaucoup de gens. Parmi d'autres, le juge de ce pays, 3 juges de paix, et le grand shérif avec leurs épouses y étaient. Parmi les Indiens présents, il y en avait un qu'ils appelaient leur empereur, un roi indien, et leur porte-parole, qui furent très attentifs, tous deux se conduisirent très affectueusement. Ce fut une réunion d'établissement et d'affermissement. C'était le 23e du premier mois. Le 24e, nous parcourûmes par aux 10 000 jusqu'à la ville indienne où demeurait cet empereur. Je le connaissais déjà avant ma venue et lui avais demandé de rassembler leurs rois et leurs conseils. Le matin, l'empereur vint lui-même et me conduisit à la ville, où ils étaient généralement assemblés, leurs porte-parole et d'autres officiers étant avec eux, et la vieille impératrice était assise parmi eux. Ils étaient tous très graves et sobres, et tous très attentifs, plus que beaucoup de soi-disant chrétiens. J'avais avec moi quelques personnes qui pouvaient interpréter leur langue. Nous eûmes avec eux une très bonne réunion, et elle fut d'un service considérable, car elle leur donna une bonne estime de la vérité et des amis, béni soit le Seigneur. Après cela, nous eûmes des réunions en plusieurs endroits de ce pays, une chez William Stephen, où il y avait une assemblée générale une fois par mois, une autre à Trudhaven Creek, une autre à Wye, une autre à Rickenhoe Creek, et une autre chez Thomas Taylor, dans l'île de Kent. La plupart furent grandes, beaucoup de gens y assistant, et beaucoup des plus considérables selon l'estimation du monde. La puissance du Seigneur et sa présence vivante étaient avec nous et se manifestaient abondamment parmi le peuple, par quoi leurs cœurs furent attendris et ouverts pour recevoir la vérité, qui eut parmi eux une bonne odeur, béni soit le Seigneur Dieu au-dessus de tout à jamais. Étant quitte de ce côté-là, nous traversâmes la baie sur environ 14 milles jusqu'à la maison d'un ami, où nous rencontrâmes plusieurs amis. J'y fis venir Thomas Thurston et eus une réunion avec lui, afin de faire triompher la vérité sur ses mauvaises actions. Ayant voyagé dans la plupart des régions de ce pays et visité la plupart des plantations, ayant éveillé des gens de toutes sortes là où nous passâmes et proclamé parmi eux le jour du salut de Dieu, nous sentîmes que nos esprits commençaient à être dégagés de ces contrées du monde et à se tourner de nouveau vers la vieille Angleterre. comme nous sentions de la part du Seigneur la liberté de rester autant que nous le désirions jusqu'à ce que la réunion générale de la province du Maryland fût passée, ce qui approchait. Afin de voir les amis ensemble encore avant notre départ, nous passâmes, entre-temps, notre temps à visiter les amis et les gens bien disposés, à assister aux réunions autour des Clifts et de Patux, et à écrire des réponses à quelques objections doctrinales frivoles que des adversaires avaient soulevées et répandues pour empêcher les gens de recevoir la vie. Nous ne fûmes pas oisifs, mais travaillâmes à l'œuvre du Seigneur jusqu'à cette Assemblée générale provinciale, qui commença le 17e du troisième mois et dura 4 jours. Le premier de ces jours, les hommes et les femmes tinrent leur réunion d'affaires. Là, on prit soin des affaires de l'Église, et beaucoup de choses relatives à ces affaires furent ouvertes pour leur édification et leur consolation. Les 3 autres jours furent consacrés à des réunions publiques pour le culte de Dieu, auxquelles beaucoup assistèrent, plusieurs étant de grande considération dans le gouvernement. Tous furent généralement satisfaits et beaucoup atteints, car ce fut une réunion merveilleuse et glorieuse, et la puissante présence du Seigneur fut vue et ressentie sur tous. Béni et loué soit son saint nom à jamais, lui qui, au-dessus de tout, donne la domination. Après cette réunion, nous prîmes congé des amis, nous séparant avec une grande tendresse, dans la semence de la vie céleste et de la puissance vertueuse du Seigneur, aimablement ressentie parmi nous, et allâmes par eau jusqu'au lieu où nous devions nous embarquer. Beaucoup d'amis nous y accompagnèrent et restèrent avec nous cette nuit-là. Le lendemain, le 21e du troisième mois 1673, nous mîmes à la voile pour l'Angleterre. Le même jour, Richard Covell monta à bord de notre navire, le sien lui ayant été pris par les Hollandais. Nous eûmes du mauvais temps et des vents contraires, ce qui nous obligea à jeter l'ancre souvent, de sorte que ce ne fut que le 31e du troisième mois que nous passâmes les caps de Virginie pour entrer dans la haute mer. Avant que nous ne passions les caps pour entrer dans le grand océan, je vis un navire au sujet duquel les marins s'inquiétaient, mais je ressentis de la part du Seigneur que le navire n'était pas ennemi et ne nous ferait aucun mal. Quelque distance plus loin, nous passâmes près du navire et entrâmes en mer sans incident. Après cela, nous fîmes bonne route, et le 28e du 4e mois nous jetâmes l'ancre à King's Road, le port de Bristol. Durant notre traversée, nous eûmes des vents très forts et un temps tempétueux, qui rendirent la mer excessivement grosse, les vagues s'élevant comme des montagnes, si bien que les maîtres et les matelots s'en étonnaient et disaient « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Mais, quoique le vent fût fort, il nous fut la plupart du temps favorable, de sorte que nous naviguâmes devant lui, et le grand Dieu qui commande au vent, qui est Seigneur du ciel, de la terre et des mers, et dont les merveilles se voient dans les profondeurs, dirigea notre route et nous préserva de nombreux dangers imminents. La même bonne main de la Providence qui nous accompagna et nous porta en sûreté veilla sur nous au retour et nous ramena sains et saufs. Action de grâce et louange à son saint nom à jamais. Nous eûmes à bord du navire, durant ce voyage, beaucoup de réunions douces et précieuses, communément 2 par semaine. Là, la bienheureuse présence du Seigneur nous rafraîchissait grandement et souvent faisait irruption sur nous et rendait les gens du navire tendres affectueux. Lorsque nous entrâmes dans le port de Bristol, il y avait là un navire de guerre, et le maître de presse monta à bord pour enrôler de force la marine britannique, pouvait contraindre tout homme à servir sur leur navire nos hommes. Nous eûmes alors une réunion dans le navire avec les marins, avant qu'ils ne gagnent la terre, et le maître de presse s'assit avec nous, demeura pendant la réunion, et en fut très satisfait. Après la réunion, je lui demandai de laisser 2 des hommes qu'il avait enrôlés sur notre navire, car il en avait enrôlé 4, dont l'un était un infirme. Il dit, à ma demande, il le ferait. La section entière qui suit a été supprimée dans le journal d'Elwood, mais se trouve dans la version de Cambridge de Penney. C'est une digression hors de la chronologie du récit, mais elle est insérée ici comme dans les manuscrits originaux. Le récit reprendra après cet affectueux souvenir de Fox, dont certains éléments sont essentiels pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrèrent dans les étendues sauvages de l'Amérique et le danger des mers, qu'ils traversèrent avec l'assistance du Seigneur. Post-scriptum du voyage, à retenir, les Indiens du Delaware avaient tendu une embuscade pour en couper, en retrancher quelques-uns, les tuer, quelques-uns de notre compagnie lorsque nous passions par là, mais leur dessein fut découvert, et l'un d'eux fut pendu au Delaware 2 ou 3 jours avant que nous y arrivions. Le Seigneur nous donna puissance sur tous, béni soit son nom à jamais. À Newport News, nous achetâmes des provisions, où nous fûmes presque gelés et affamés dans les bois pendant 3 ou 4 nuits, et nos provisions étaient rares. En Nouvelle-Angleterre, il y avait un roi indien qui disait que beaucoup des siens avaient été convertis à la religion des professeurs de Nouvelle-Angleterre les puritains, et qu'ensuite ils étaient devenus pires qu'avant d'avoir quitté leur ancienne religion, et que, de toutes les religions qu'il avait vues, les Quakers étaient les meilleurs. Il disait que s'il se convertissait à la religion puritaine de Nouvelle-Angleterre, devenant pire qu'avant sa conversion, puis se tournait pour devenir Quaker, les puritains de Nouvelle-Angleterre le pendraient, le mettraient à mort et les banniraient, comme ils l'avaient fait aux Quakers. C'est pourquoi il jugeait préférable de rester comme il était. Avant la venue des Anglais, un Indien avait dit qu'un peuple blanc viendrait dans une grande chose sur la mer, et que leur peuple serait aimable envers eux et les recevrait, mais que s'ils faisaient du mal ou nuisaient aux Blancs, ils seraient détruits. Cela s'est vu et accompli, car lorsqu'ils firent du mal aux Anglais, ils ne prospérèrent jamais et furent détruits. Ainsi l'Indien était un prophète et prophétisa véritablement. Fox aimait raconter cette histoire parce qu'elle était une preuve des actes. L'Esprit de Dieu a été répandu sur toute l'humanité, acte 2, 16-17, y compris la prophétie. À Flushing, New York, dès que la réunion fut terminée, le fils d'un prêtre se leva et exposa trois choses qu'il voulait disputer. La première était l'ordination des ministres, la seconde la prise de parole des femmes, et la troisième que nous rendions un culte d'une manière nouvelle. Je lui parlai et lui demandai de dire s'il avait quelque chose contre ce que j'avais dit, et il ne put rien dire alors. Je dis que notre culte était semblable à celui que Christ avait établi il y a 1600 ans, une manière nouvelle de rendre culte pour lui et ses prêtres, parce qu'elle était en esprit et en vérité. Quant à la prise de parole des femmes, ce que les apôtres permettaient, je le permettais, et ce que les apôtres refusaient, je le refusais. Je demandai quelle ordination avaient les prêtres, et dis que nous nions qu'ils fussent comme les apôtres, car ils n'avaient pas le même esprit que les apôtres, comme certains d'entre eux l'avaient admis. Mais ce fils de prêtre dit que leurs prêtres avaient le même esprit que les apôtres. Je lui répondis, si c'est le cas, ils auraient les mêmes fruits, et l'esprit des apôtres ne les conduisait pas à couper les oreilles des gens, les pendre, les bannir et saisir leurs biens, comme l'avaient fait les prêtres de Nouvelle-Angleterre. Le fils de prêtre dit que le ministère de leurs prêtres était comme celui de Judas et comme celui des fils du vieux Élie. Je lui dis, alors ils doivent en avoir la fin et la récompense. Le fils de prêtre dit, la preuve de ces prêtres, c'est qu'ils doivent aller dans toutes les nations, prêcher et donner la saine administrer la communion. Alors je dis, quand donc un seul des prêtres de Nouvelle-Angleterre est-il allé dans toutes les nations pour prêcher et donner la saine, puisqu'ils ne vont pas plus loin que là où ils peuvent avoir un gros bénéfice gras revenu de paroisse, ou bien le peuple aurait-il quelque notre père sans le denier il ne priait et ne prêchait que pour de l'argent. Alors le fils de prêtre dit que les prêtres étaient de la tribu de Lévi, Lévi, la tribu juive assignée à être prêtre et à percevoir la dîme. Je dis, Christ ne venait pas de la tribu de Lévi. Il a mis fin au sacerdoce de la tribu de Lévi et a changé le sacerdoce et la loi par laquelle il avait été institué. Et Christ est venu, non de la tribu de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizedek et est appelé le lion de la tribu de Juda. Et ainsi vous avez retranché tous vos prêtres d'être ministres de l'Évangile, et ce sont de ceux qui nient que Christ soit venu en chair. Ils nient que Christ soit venu dans leur chair pour gouverner leurs paroles et leurs actions. À la Barbade, le prêtre et le juge de paix s'unirent contre moi et la vérité, excitant le peuple contre elle. Ils vinrent donc à une assemblée générale. Les baptistes commencèrent les premiers, et ils crièrent et invectivèrent jusqu'à ce que l'un d'eux, un enseignant appelé Hatchman, écuma de la bouche. Lorsqu'il eut fini de parler, Paul Gwynne et sa compagnie prirent leur tour, criant et s'emportant jusqu'à s'épuiser. Ils me demandèrent si j'avais le même esprit que les apôtres, et quand je dis que oui, ils s'en allèrent. Après leur départ, les avocats se levèrent, faisant grand bruit et criant jusqu'à ce que leurs bouches fussent arrêtées, puis ils s'en allèrent. Puis d'autres se levèrent, ainsi ils se relayèrent, si bien que le monde les remarqua et fit des vers à leur sujet. On me dit qu'un de ces gens avait la réputation, à la Barbade, d'être un homme méchant avec deux femmes. Plus tard, il devint si hardi qu'il injuria le gouverneur, celui-ci le fit donc jeter en prison, ainsi il reçut sa récompense. Après tout cela, nous eûmes une bonne réunion, et la puissance du Seigneur et sa semence bénie furent établies au-dessus de tout, béni soit son saint nom à jamais.
Amen.
Le grand Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, qui est au-dessus de tout, nous porta par sa main élevée, sa puissance, sa sagesse au-dessus de tout et à travers bien des dangers et des périls par mer et par terre, et des périls dus à des professeurs trompeurs sans possession de Christ, qui étaient comme les vagues furieuses de la mer, mais qui furent apaisés, et des périls de loups, d'ours, de panthères, de cougars, de serpents à sonnet et d'autres créatures venimeuses d'une nature semblablement empoisonnée, d'eux et des périls à travers. Le Seigneur Dieu béni, en sa puissance bénie, a par sa puissance étendu sur tous sa ligne de vie, sur ses ouvriers de mort. Et le Seigneur Dieu rendit toutes choses faciles par son esprit et sa puissance, et donna à son peuple la domination sur tout, et rendit ses obstacles plats et bas comme une prairie, et fit que sa grande puissance et sa gloire, dans sa lumière et sa vérité, fussent au-dessus de tout dans les cœurs du peuple. Béni soit son nom à jamais. Amen. Un commentaire de l'éditeur du site. À cette époque, dans l'Amérique coloniale, Les forêts du sud-est comptaient de nombreuses panthères noires et des cougars fauves, aujourd'hui appelés pumas. Les marécages et les vastes tourbières étaient aussi très courants, surtout le long des terres côtières. Ayant grandi dans les forêts du sud-est, j'éprouve de l'admiration pour Fox et sa compagnie, capables de parcourir 20 à 30 milles par jour au cœur de l'hiver à travers tous ces périls et déserts, depuis les Carolines jusqu'à New York. Vraiment, sans l'aide de Dieu, cela aurait été impossible sans que beaucoup de sa compagnie périssent. Deux parmi les autres créatures venimeuses des États-Unis, on compte des serpents en mocassins d'eau, tête cuivrée et serpent corail, des scorpions, des tarentules et d'autres araignées. Le Seigneur fut notre convoi, protection et sécurité sur les mers. Le Seigneur dirigea notre route. Le Seigneur Dieu, qui chevauche sur les ailes du vent, ordonna nos vents pour nous, lui qui suscite une tempête et fait le calme, et se fait des chambres dans les profondeurs, et fait des nuées son char pour envoyer la pluie au loin. Lui qui, lorsque nous étions en danger de l'ennemi, leva des brumes et des brouillards pour les aveugler, et des tempêtes pour les disperser, le soir comme le matin. Mais à midi, il dégageait le ciel, afin que le soleil fût visible environ un quart d'heure pour faire nos observations mesures au sextant pour déterminer notre position en mer, puis refermait le ciel, au point que nous aurions pu traverser une flotte de pirates. Le Seigneur fit venir de telles brumes que nous voyions si peu loin autour de nous que les marins reconnurent que, si le Seigneur Dieu fut jamais dans un navire, il était dans celui-ci, et qu'ils étaient bénis à cause de cet homme Fox, car le Seigneur fit des ténèbres notre pavillon, et ainsi la présence du Seigneur Dieu fut avec nous tout du long. Quand nous étions en Virginie, il y avait un embargo, et un convoi pour la flotte se trouvait en Virginie. Ainsi, le maître du navire et les hommes tinrent conseil, et d'un commun accord, décidèrent de mettre à la voile pour rejoindre le convoi qui se préparait à aller en Angleterre. Nous entendîmes parler d'un navire de guerre hollandais vers New York. Un maître d'un navire venant d'Angleterre monta à bord, apportant la nouvelle que son navire avait été capturé avec un autre sloop navire, et que le même navire de guerre avait capturé 11 autres navires, emmenant les prises vers la Sicile et les côtes d'Irlande. Mais malgré toutes ces sombres nouvelles, nous mîmes à la voile, et dans la puissance du Seigneur nous partîmes. Plusieurs Londoniens et des hommes de Bristol m'envoyèrent des messages me demandant de me joindre à eux sur leur navire, mais je fus poussé par la puissance du Seigneur à faire la traversée sur ce navire-ci, quoiqu'en vérité je ne dise grand-chose à personne jusqu'au moment où nous approchâmes du Cap Henry. Vers 8 heures du matin, nous aperçûmes un navire sur la côte à l'ouest, là où les pirates avaient coutume d'être, ce qui troubla les marins de crainte, mais le Seigneur à qui j'appartiens, et nous appartenons, dans une vision, me montra deux navires vers l'ouest, qui ne nous feraient aucun mal. Lorsque nous arrivâmes dans les routes maritimes de la Barbade et de la Nouvelle-Angleterre, nous vîmes un autre navire vers l'ouest, ce qui suscita aussi la peur chez les marins, mais le Seigneur me fit comprendre que c'était le second navire qu'il m'avait montré dans la vision précédente, et qu'aucun des deux ne serait ennemi. Je demandai au Seigneur que, si telle était sa volonté, nous ne vissions pas d'autres navires jusqu'à notre arrivée en Angleterre, afin d'ôter la crainte de tous ceux qui étaient sur notre navire, et le Seigneur exauça ma prière, car nous ne vîmes plus aucun navire jusqu'à ce que nous entrions dans Kinglan du port de Bristol. Alors je demandai au Seigneur s'il voulait nettoyer nos côtes, comme il le peut de tous voleurs et pirates. Car la puissance et la vie du Seigneur sont au-dessus de tous ses ouvriers de mort et de ténèbres, lui qui a puissance sur tout le ciel et la terre, la mer et les vents, pour diriger notre route et disperser tous les pirates, les confondre et les repousser, il le fit, béni soit son nom à jamais. Et le Seigneur Dieu dit, « Dans ta main et ta puissance, je t'ai donné le navire, et les paroles de Paul me vinrent à l'esprit, et tous ceux qui sont dans le navire arriveront sains et saufs. » Je dis à l'équipage du navire que je croyais en sa promesse, et quand nous approchâmes de la maison, le Seigneur Dieu me dit après m'avoir donné le navire en main, « Peux-tu te livrer toi-même, ainsi que tous ceux qui sont dans le navire, à être maintenant capturés par les pirates, afin que tous les navires qui sont derrière, au Maryland et en Virginie, puissent passer en sûreté en Angleterre ?» Je le fis librement, et, en un clin d'œil, le navire me fut rendu de nouveau, et le Dieu béni nous ramena bien et en sûreté à la maison. Lorsqu'il y avait des tempêtes ou des brouillards qui les empêchaient de faire leurs observations au sextant, je fus poussé par le Seigneur à leur dire d'être contents, d'avoir bonne foi et de ne s'inquiéter de rien, car tout allait bien, c'était la volonté de Dieu, et cela se tenait dans sa volonté. Et il plut à Dieu que les choses fussent ainsi, afin que nous ayons beaucoup de réunions précieuses les premiers jours et d'autres jours de la semaine. La présence du Seigneur était ressentie dans ces réunions, tant sur terre que sur mer. Le Seigneur nous porta en beaucoup de lieux. À travers la Barbade et la Jamaïque, je rencontrai les gouverneurs, et nous eûmes de précieuses réunions en ces endroits, à travers les gouvernements de Plymouth, Rhode Island et la province du Roi, New York, les gouvernements de Boston et New Jersey, et le gouvernement du Delaware et le Maryland, la Virginie, la Caroline et certains jusqu'à Antigua, et bien d'autres lieux encore, et la bienheureuse vérité répondit aux témoins de Dieu. La vérité fut reçue par beaucoup de gens, à la gloire du grand Dieu, béni soit son nom à jamais. Ainsi béni soit le grand Dieu à jamais, qui est au-dessus de tous les cieux, de la terre, des vents et de tous les esprits mauvais, qui ordonne tout à sa gloire, qui chevauche sur les ailes du vent, et fait des nuées son char, et étend la ligne de justice sur les méchants, les tient dans leurs bornes, pose des limites à toutes choses, et préserve son peuple comme la prunelle de son œil. Béni soit son nom à jamais. Lorsque nous entrâmes dans le port, j'appelai le capitaine du navire, le second et le marchand, pour leur déclarer ce que le Seigneur m'avait montré, et que maintenant, le navire que le Seigneur m'avait donné et qu'il avait préservé, lui et nous, par sa puissance, je le leur rendais à nouveau. Le gouverneur de la Barbade me reçut très aimablement pour me souhaiter la bienvenue dans cette île, et beaucoup de personnes de qualité sont convaincues et affectueuses. Le juge Fretwell est devenu un beau ami avec sa famille, et le juge Farmer était très affectueux. Des réunions sont établies dans la maison de chaque ami parmi les Noirs, quelques 200, quelques 300 dans leur maison, afin que les amis puissent instruire leur famille comme Abraham le faisait. Lorsque nous quittâmes la Barbade, plusieurs centaines d'amis nous accompagnèrent jusqu'au navire. Nous naviguâmes sur 1200 milles jusqu'à la Jamaïque, où le gouverneur nous reçut très volontiers. De Henry Fell, sans lien de parenté avec le juge Fell à Margaret Fox, depuis la Barbade, 1674. Ceci est une lettre de réponse à Margaret, qu'il avait auparavant connue dans la communion en Angleterre, qu'il avait quittée, et qui s'était retrouvée à la Barbade, lourdement endettée, pour y être relevée par George Fox et d'autres ministres sur l'île. Chère Margaret Fox, mon amie très chère et bien-aimée dans le Seigneur, que j'aime et honore, j'ai reçu de Swarthmore votre lettre du 8 au jour du 1er mois 1672, qui m'a été très bienvenue, et dont le conseil intérieur m'a été très opportun, comme le conseil d'une mère tendre à son enfant. Je n'ai pu que recevoir et louer ce conseil comme venant d'une source d'amour, que le Seigneur a ouverte dans votre cœur. Je sens votre tendre sollicitude, que je sais avoir été dirigée vers moi pour mon bien et ma préservation, depuis que j'ai été pour la première fois convaincue de la bienheureuse vérité du Seigneur. Si j'avais persévéré et demeuré fidèle dans la vérité, j'aurais pu, dans une certaine mesure, vous rendre l'amour et le soin dont vous m'avez entouré, ce qui aurait été une joie et un réconfort pour nous deux, et non la peine et le chagrin qui ont été. Quoi qu'il en soit, votre récompense est auprès du Seigneur, qui fait et fera, je le crois, retomber votre labeur et votre amour dans votre propre sein. Cher ami, mon très cher amour en ce temps est pour vous, dans la mesure de la vérité et de la lumière éternelle de Jésus-Christ, qui est l'alliance bénie que le Seigneur a faite avec tous les peuples, qu'ils soient juifs ou gentils, esclaves ou libres. Tous doivent venir à la lumière, dans laquelle tous doivent marcher, autrement ils ne peuvent connaître le Seigneur ni avoir communion avec lui, ni communion avec ses saints dans l'esprit. On ne peut non plus connaître ni attester le sang de votre alliance éternelle, qui lave et purifie de tout péché et de toute injustice. Mais à mesure que cette lumière est soumise, obéie et suivie, ainsi que le prophète d'autrefois en a rendu témoignage, disant, « Toutes les nations de ceux qui sont sauvés doivent marcher dans sa lumière. Et elle est semée pour que les justes y marchent, et elle est le sentier de l'homme juste, où les méchants, les injustes et les impies ne peuvent marcher, ni n'ont jamais marché. » Et ainsi ils sont exclus de Dieu, en qui n'habite aucune iniquité, et dont l'artisan d'iniquité est exclu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur, qui a de nouveau ouvert un œil en moi. Par son infinie miséricorde et sa bonté, il m'a fait voir, en grande mesure, ma chute et ma perte, et non seulement ma chute, mais aussi la voie pour en sortir et retourner à lui-même. Il m'a conduit dans cette voie selon la mesure, et dans le combat spirituel contre ce qui me séparait de Dieu. Il m'a amené à l'attendre, dans la voie de ses jugements. Mon espérance est qu'il sera amené à la victoire, et que la captivité soit renversée, que ce qui m'a conduit en captivité soit jamais conduit captif, par la puissance de la semence bénie, qui était la promesse d'autrefois d'écraser la tête du serpent, par Jésus-Christ, à qui appartient le droit de régner sur tout à jamais. Oh, je ne puis que me souvenir du grand et merveilleux amour de Dieu envers moi, et envers beaucoup de pauvres âmes ici dans cette île, en envoyant ses apôtres et ses serviteurs nous visiter ici, à savoir George Fox et les autres avec lui. Oh, ce fut pour nous une visitation bénie d'amour, allant jusqu'à tirer mon âme de la mort, elle qui était morte dans les péchés et les offenses, mais qui est maintenant de nouveau vivifiée par la puissance de l'Évangile éternel, par lequel les aveugles viennent à voir, les sourds à entendre, et les morts à ressusciter, comme Lazare hors du tombeau. De sorte que mon âme a grand sujet de louer, et d'exalter le nom du Seigneur en leur fox et ses compagnons faveurs, dont le labeur d'amour le Seigneur a récompensé et récompensera pour toujours. En effet, comme vous l'avez mentionné dans votre dernière lettre, ce qu'il y a de pur en moi a de nouveau reçu une seconde résurrection astérisque, quoique cela rencontre une grande opposition et de nombreux ennemis. Oui, elle est plus grande et plus forte qu'auparavant. Bien que les épreuves et les tentations soient nombreuses, je suis toutefois maintenu dans l'abaissement, dans la crainte du Seigneur, et je suis chaque jour préservé et fidèle à la mesure de sa grâce en moi, je la trouve suffisante. Car il est venu, celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. De sorte que, comme le péché a abondé, sa grâce abonde bien davantage, gloire à son nom à jamais, et j'espère qu'enfin elle apportera le salut et délivrera mon âme des mains de tous ses ennemis. Ainsi mon âme pourra à jamais bénir et louer le Seigneur dans la terre des vivants. Astérisque peut-être, vivification en serait-il un meilleur mot, car il n'est possible qu'une seule résurrection par personne. Si quelqu'un retourne au péché après avoir regardé Christ en face, il est perdu, ayant crucifié de nouveau le Fils de Dieu. Selon Fox, la résurrection a lieu après le baptême de mort et après avoir été enseveli avec Christ, chose dont H. Fell ne rapporte avoir fait l'expérience d'aucune. Cher ami, je suis ici comme un prisonnier sur cette île, à cause de mes dettes et de mes engagements extérieurs, de sorte que je ne peux partir d'ici avant que tout n'ait été acquitté, mais je dois attendre que la voie me soit ouverte. Cependant, ma femme et mon enfant partent maintenant dans cette flotte en direction de Bristol. Si le Seigneur le permet, ce que si je n'avais pas ici des dettes au-delà de ce que je puis présentement payer, je serais très heureux d'aller avec eux. En vérité, mon vrai et cher ami, John Stubb, avait des projets pour obtenir ma liberté extérieure, me permettant de venir en Angleterre. Mais il en a été empêché et arrêté par John Cartwright, alors ici, qui s'y est opposé et a pour l'instant dressé les amis contre cela, mais j'espère que le Seigneur fera tourner le tout au bien à la fin. Quant aux événements d'ici, je vous renvoie à John Stubb, qui est le porteur de cette lettre et qui pourra vous donner un récit plus complet de l'état des choses ici que ne le peuvent des lettres. Son labeur et son service ici ont été grands pour la cause de la vérité, malgré sa maladie et sa faiblesse de corps durant ces derniers mois. Mais la vérité se répand et a la domination, et les réunions sont très nombreuses et paisibles. Mon cher amour est rappelé à vous et à tous vos chers enfants, et à tous les amis de ces régions. Je serai très heureux de revoir encore une fois mon pays natal, si le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. En attendant, je désire vos prières pour moi, afin que je sois fidèle à persévérer jusqu'à la fin, car j'ai beaucoup d'épreuves, tant intérieures qu'extérieures, et beaucoup de pièges et de tentations de l'ennemi, par lesquels il cherche par tous les moyens à m'enlacer de nouveau. Mais j'espère que le Seigneur me préservera d'elle par sa puissance et, en temps voulu, me donnera la domination sur elle. C'est pour cela que mon âme crie chaque jour au Seigneur afin que cela s'accomplisse. Ainsi, cher ami, je désire avoir souvent de vos nouvelles, selon votre liberté et votre occasion, car je suis heureux d'avoir de vos nouvelles en tout temps. Ainsi, dans la mesure de la vérité bénie, mon amour vous salue et vous dit adieu, tandis que je demeure votre ami, comme je suis gardé en ce qui est un ami pour mon âme. Henry Fell, j'ai aussi écrit maintenant à votre mari, cher George Fox, par cette occasion. Nous avons débarqué cet après-midi-là et sommes arrivés à Shearhampton. Nous avons obtenu des chevaux et avons chevauché jusqu'à Bristol cette nuit-là, où les amis nous reçurent avec une grande joie. Le soir, j'écrivis une lettre à ma femme pour l'avertir de mon débarquement. « Chère âme, ce jour nous sommes arrivés à Bristol, sur le soir, venant de la mer, gloire au Seigneur Dieu sur toute chose à jamais, qui fut notre escorte et dirigea notre route. Lui qui est le Dieu de toute la terre, des mers et des vents, et qui a fait des nuées son char, au-delà de toute parole, béni soit son nom à jamais. » Il est au-dessus de tout, dans sa grande puissance et sa sagesse. Amen. Robert Withers et James Lancaster sont avec moi, et nous allons bien. Gloire au Seigneur à jamais, qui nous a conduits à travers de nombreux périls, périls sur l'eau et dans les tempêtes, périls par les pirates et les brigands, périls dans le désert et parmi de faux professants. Louange à celui dont la gloire est au-dessus de tout à jamais. Amen. Par conséquent, ayez en vue la vie nouvelle, et que tous vivent pour Dieu en elle. J'ai l'intention, si le Seigneur le veut, de demeurer quelque temps de ce côté. Ce sera peut-être jusqu'à la foire. Ainsi, rien de plus, sinon mon amour à tous les amis. George Fox, Bristol, le 28 du 4 mois, 1673, retour suivant.